Amen, alléluia. Vous pouvez prendre place, frères et sœurs, et je vous invite à ouvrir la bonne parole de notre Dieu dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 40. Ésaïe, chapitre 40, et nous lirons à partir du verset 9. Monte sur une haute montagne, Sion, pour publier la bonne nouvelle. Élève avec force ta voix, Jérusalem, pour publier la bonne nouvelle. Élève ta voix, ne crains point. Dis aux villes de Juda, voici votre Dieu. Voici le Seigneur, l'Éternel, vient avec puissance, et de son bras il commande. Voici le salaire est avec lui, et les rétributions le précèdent. Comme un berger, il paîtra son troupeau. Il prendra les agneaux dans ses bras, et les portera dans son sein. Il conduira les brebis qui allaitent. Amen. Relisons verset 11. Comme un berger, il paîtra son troupeau. Il prendra les agneaux dans ses bras et les portera dans son sein. Il conduira les brebis qui allaitent. Comme un berger, il paîtra son troupeau. Nous savons que le Seigneur Jésus est souvent décrit comme le berger de son peuple et cette image est inépuisable. Et nous savons que le Seigneur Jésus agit à l'égard de son peuple et exerce à l'égard de son peuple toutes les fonctions nécessaires qu'un berger accomplit pour ses brebis. Avec une grande bonté, il nous dirige pour notre bien. C'est pour ça que, par exemple, dans le psaume 95, au verset 6, nous pouvons lire « Venez, prosternons-nous et humilions-nous, fléchissons le genou devant l'Éternel, notre Créateur, car il est notre Dieu et nous sommes le peuple de son pâturage, le troupeau que sa main conduit. » Amen. Donc, il nous dirige. Il nous guide aussi. Dans Jean 10, verset 4, « Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent, parce qu'elles connaissent sa voix. » Amen. Et puis aussi, il pourvoit à leurs besoins. Et là, nous voici dans le psaume 23, verset 1er. « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de presque rien. » Ah, malheureusement qu'il y a des chrétiens qui me... le mauvais pasteur que voilà. « Je ne manquerai de rien, bien sûr. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me conduit près des eaux paisibles. » Alléluia. Il pourvoit nos besoins. Il nous protège aussi de toute forme de mal. Regardez dans le même psaume au verset 4. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. Amen. Et si nous nous égarons, il va même nous rechercher pour nous ramener. Et c'est pour ça que dans le psaume 23, verset 3, il est marqué « Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. » Si nous sommes malades, il veut nous guérir, il veut nous rétablir, suivant sa parole, cette fois-ci dans Ézéchiel, au chapitre 34 et au verset 15. « C'est moi qui ferai paître mes brebis, c'est moi qui les ferai reposer, dit le Seigneur l'Éternel. » Je chercherai celle qui était perdue, je ramènerai celle qui était égarée, je panserai celle qui est blessée et je fortifierai celle qui est malade. Amen. Vous savez, la brebis, c'est un animal qui a beaucoup de besoins, qui peut être facilement frappé par toutes sortes de maux. Mais comme le berger essaye de répondre à tous les besoins de son troupeau, ainsi le Seigneur, lui, comble parfaitement tous ceux qui sont rachetés par son sang et il les comble en toutes choses. Amen. Alors, pour parler donc de cette grande doctrine qui est contenue dans notre texte, nous pourrons avoir trois grands points. Nous parlerons d'abord d'illustration de l'Ancien Testament. Et puis, on pourra parler de description du Nouveau Testament. Et puis aussi, on pourra voir des applications qui sont importantes. On n'aura pas le temps de tout voir aujourd'hui, mais on va quand même commencer déjà, premier chapitre, des illustrations de l'Ancien Testament pour montrer comment Christ s'occupe de son peuple comme un berger. Et nous pourrons voir cinq grands exemples. Et voici le premier. Le premier, c'est Abel. Abel, le berger assassiné. Rappelons-nous, le deuxième homme né dans le monde a été un berger et par bien côté, il est une image, un type de notre bon berger. Il fut un exemple du Sauveur, tout d'abord en ce qu'il sanctifia son travail à la gloire de Dieu et qu'il offrit un sacrifice sanglant sur l'autel du Seigneur. Il est dit que Dieu jeta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Alors, tout n'est pas encore pleinement compris, mais c'est déjà clair, c'est déjà distinct, quelque part un peu comme le premier rayon de lumière qui éclaire l'Orient au lever du soleil ne révèle pas tout, mais il manifeste quand même clairement que le soleil est en train de se lever, en train d'arriver. Eh bien, Abel, c'est une image incomplète, mais claire, de Christ offrant le sacrifice pour le péché. Amen. Et Abel, le berger qui sacrifiait, la deuxième chose qu'on peut voir à son sujet, c'est qu'il a été haï par son frère et qu'il a été haï sans cause. Savons cela aussi. Et ainsi en a-t-il été du Sauveur. Et l'esprit de ce monde a haï le Seigneur Jésus à cause de sa perfection qu'il ne supportait pas et à cause aussi de sa dénonciation du péché dont ce monde était coupable. Et cette haine n'a pas eu de cesse jusqu'à ce que le sang de Christ ait été versé. Et Abel tomba et arrosa son propre autel et son sacrifice avec son propre sang. Et il faudrait être aveugle pour ne pas discerner là le Seigneur Jésus assassiné par l'inimitié de l'homme alors qu'il sacrifiait devant le Dieu du ciel. Et dans le Nouveau Testament, bien nous lisons au sujet du sang d'Abel que bien que mort, il parle encore, c'est écrit dans l'Épître aux Hébreux qui nous dit cela, et ça nous rappelle Genèse 5, verset 10, où il est écrit « L'Éternel dit à Caïn, qu'as-tu fait ? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. » Nous souvenons de cela. Et de même, le sang du Seigneur a une voix puissante, et puissante non pour la vengeance, mais pour la grâce. Et puis une chose encore qu'on peut voir, c'est que Abel a été le premier dans l'ordre du temps, et Jésus a été le premier dans l'ordre de l'excellence, quelque part. La terre a ouvert sa bouche pour recevoir le sang d'Abel, et le sacrifice de Jésus a été en bénédiction à ce pauvre monde ruiné par le péché. Et Abel donc a reçu le témoignage divin à sa justice, et Jésus a bien sûr obtenu de même, à plus forte raison, au jour de sa résurrection. Mais la grandeur, l'abondance du sujet nous oblige à ne pas trop nous attacher à l'exemple d'Abel et à passer à un autre berger, très instructif, lui aussi, c'est Jacob. Jacob, le berger au travail et à la peine. Ça aussi, c'est quelque chose. Et nous avons là encore l'image du bon berger, non pas en train de mourir comme auparavant, mais cette fois-ci comme gardant les troupeaux pour se constituer lui-même un troupeau et acquérir une épouse aussi. On voit cela. Jacob, nous a-t-il dit, abandonna la maison de son père et il partit loin de toute joie, de tout ce confort de cette maison dont il était l'héritier en puissance, et ceci donc par ses propres entreprises et aussi par la promesse du Seigneur. Et notre Seigneur Jésus-Christ, à cause... Les enfants, s'il vous plaît, là. Merci. Et notre Seigneur Jésus-Christ, à cause de l'amour dont il nous a aimés, a laissé la maison de son Père pour venir demeurer parmi les hommes. Amen. Et puis nous voyons que Jacob est allé chez le frère de sa mère, chez Laban. Donc, et de même, notre Seigneur, par sa mère, a considéré les hommes comme étant de sa famille. Il est venu chez les siens, nous dit l'évangile de Jean au chapitre 1er. Et cette vision que Jacob a eue, la première nuit, donc, après avoir quitté la maison de son père, eh bien, nous semble comme une représentation de ce grand but que le Seigneur avait quand il est venu en mission ici-bas. Cette échelle, rappelez-vous, l'échelle de Jacob, qu'il a vue donc à ce moment-là, qu'il a vue en rêve, et c'est un songe plutôt, on peut dire, dont le pied touche la terre, dont le sommet touche au ciel, mais c'est une image de cette œuvre que Christ allait accomplir en sa propre personne, car quand l'homme tombé dans le péché vient au pied de Christ, et que le Dieu de l'Alliance, le Dieu du salut, se tient au sommet, je dirais, quelque part à la tête de Christ, alors... Les anges montent et descendent par sa propre personne, donc comme sur une route de communication divine par laquelle la prière monte et par laquelle les réponses et les grâces descendent. C'est pour ça que nous pouvons nous approcher de Dieu en Jésus-Christ, par Jésus-Christ. Amen. Et puis, dès que Jacob arriva à la maison du frère de sa mère, il commença à travailler à cause de l'amour qu'il portait à Rachel. Et Jésus-Christ n'est pas plutôt arrivé sur cette terre qu'il a commencé à travailler lui aussi pour gagner son épouse. Hein. Et d'après la propre description de Jacob à ce sujet, nous voyons que ce travail pour gagner son épouse était quelque chose d'extrêmement ardu pour lui, et nous pouvons discerner le Seigneur Jésus aussi engagé dans une œuvre semblable quand il est venu sur la terre, cherchant à racheter les siens pour qu'ils soient toujours à lui. Ça a été un immense travail. Je reviens à Jacob qui, s'adressant à Laban, chapitre 35, au verset 38 de la Genèse, lui dit « Voilà 20 ans que j'ai passé chez toi. Tes brebis et tes chèvres n'ont point avorté. Je n'ai point mangé les béliers de ton troupeau. Je ne t'ai point rapporté de bêtes déchirées, j'en ai payé le dommage. Tu me redemandais ce qu'on me volait de jour et ce qu'on me volait de nuit. La chaleur me dévorait pendant le jour et le froid pendant la nuit, et le sommeil fuyait mes yeux. » Voilà 20 ans que j'ai passé dans ta maison. Je t'ai servi 14 ans pour tes deux filles et 6 ans pour ton troupeau et tu as changé 10 fois mon salaire. » Donc il se plaint de tout ce travail qu'il a fait. Donc, mais il y a plus de travail encore dans la vie du Sauveur sur la terre. Hein, il veille sur toutes ses brebis jusqu'à ce qu'il puisse en rendre compte en disant donc à la fin de son parcours terrestre, dans Jean chapitre 18 au verset 9, « Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donné. » Alléluia. Hein, donc, et aucun berger, même dans le travail le plus dur, n'aurait pu se plaindre comme le Seigneur aurait pu le faire s'il avait voulu, à cause de la difficulté de cette œuvre harassante qu'il a eu à accomplir. Voilà. Et puis encore un autre point de ressemblance que nous voyons, c'est que quand Jacob a eu ainsi acquis son épouse et son troupeau, il a conduit son troupeau et sa famille loin de Laban. Ça aussi, c'est quelque chose. C'est un point qu'il ne faut pas oublier. Et Jésus, donc, portant sa croix, nous a-t-il dit « sorti du camp ». Et il nous parle de même pour que nous aussi, nous sortions du camp en portant son opprobre, comme il est marqué. Jésus s'éloignant de Laban pour le pays promis, c'est une image très juste de Christ qui sort du monde, suivi par les siens, pour entrer dans le pays de la gloire éternelle. Amen. Et voici notre troisième exemple, troisième modèle, c'est Joseph. Joseph, c'est une image de Jésus, mais cette fois-ci, qui règne, Joseph, l'image de Jésus qui règne dans l'Égypte de ce monde pour le bien de son peuple pendant qu'il est ici-bas. Rappelez-vous l'histoire de Joseph. Hein ? Voyons qu'il était là, il est marqué qu'il gardait le troupeau de son père avec ses frères au départ. Hein. Et ainsi fit notre sauveur quand il commença à enseigner, à prêcher. C'est au milieu des scribes et des pharisiens envieux, qui, comme les frères de Joseph, étaient envieux aussi, donc, qu'il gardait le troupeau de son père. Et comme Joseph portait une tunique de plusieurs couleurs qui indiquait son rang princier, je dirais, et l'amour de son père pour lui, ainsi Jésus-Christ, dans la perfection de sa nature, a été espionné par des bergers envieux. Il est marqué qu'il était oint d'une huile de joie au-dessus de ses collègues. Amen. Hein. Et ils ont commencé, nous le savons, à critiquer ses paroles, parce qu'il avait eu un rêve dans lequel il avait vu le soleil, la lune et les étoiles qui lui rendaient obéissance, et ils l'ont critiqué à cause de cela, ses frères. Hein. Et rappelons-nous comment les pharisiens et scribes envieux écoutaient la parole du Seigneur, l'entendaient dire qu'il était le Fils de Dieu, qu'il était venu du ciel, et puis qu'est-ce qu'ils disaient ? Ben, ils disaient qu'il rêvait, et ils l'accusèrent de blasphème, et ils se déterminèrent à le détruire. Et nous nous rappelons qu'il a été vendu pour 30 pièces d'argent pour le prix d'un esclave. Donc Jacob a été vendu, pardon, Joseph a été vendu, et Christ a été vendu aussi, hein, nous le savons, aux puissances du mal. En Égypte, rappelez-vous, Joseph a été faussement accusé, et notre berger aussi fut faussement accusé, et mis en prison également, dans la prison du tombeau, dans laquelle il demeura peu de temps. Joseph sorti de prison et Jésus, enfin Joseph, hein, peu importe le nom qu'on utilise, a été établi sur tout le pays d'Égypte et notre grand berger, sorti de la prison du tombeau, est maintenant établi et exalté au-dessus de toute autorité, principauté, puissance ou nom qui puisse se nommer dans les cieux et sur la terre. Alléluia. Amen. Et il est dit que, pour concernant Joseph, que pas un chien ne devait remuer sa langue dans le pays d'Égypte sans la permission de Joseph. Et sûrement, aucun adversaire ne peut faire de mal à ceux qui se confient en Christ parce que le Père a remis toute autorité et toute puissance au Fils. Amen. Nous voyons même que Joseph a été un très grand avantage pour les Égyptiens eux-mêmes. Parce que sans lui, il serait certainement mort de faim dans la famine, hein, sans sa prophétie, sans son travail de mise en réserve de grains. Et Jésus est d'une très grande utilité, même à ce monde méchant. Hein. C'est par lui que ce monde est préservé. Rappelons que le figuier stérile a été préservé à cause de l'intercession du jardinier, hein, de l'intercession, l'intercession du Seigneur Jésus épargne encore les vies de ceux qui ne sont pas à Dieu, ceci afin qu'ils puissent avoir la pleine occasion, la pleine possibilité de se repentir. Amen. Mais Joseph a aussi régné pour une raison particulière, j'irais pour un objectif spécial. Hein, c'est le témoignage qu'il va lui-même donner à ses frères. Dans Genèse 45, au verset 5, il est écrit, il leur dit, « C'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. » Et Jésus a la puissance sur le monde entier. Pourquoi ? Pour secourir ceux qui veulent venir à lui et parvenir à la repentance. Et pour les sauver. C'est ça son but principal et premier. Et peut-être certains se demandent-ils pourquoi on appelle Joseph un berger ? Parce que c'est vrai que pendant sa jeunesse, il a gardé les troupeaux de son père, mais quand il a été en Égypte, on ne voit pas trop que cela soit le cas. Et voici cependant le témoignage de Jacob, son propre père, à ce sujet. C'est en Genèse 49, maintenant, au verset 22, où nous lisons « Joseph est le rejeton d'un arbre fertile. Le rejeton d'un arbre fertile près d'une source. Les branches s'élèvent au-dessus de la muraille. Ils l'ont provoqué. Ils ont lancé des traits. Les archers l'ont poursuivi de leur haine. Mais son arc est demeuré ferme. Et ses mains ont été fortifiées par les mains du puissant de Jacob. Il est ainsi devenu le berger, le rocher d'Israël. » C'est appelé ainsi, voyez-vous, le berger et le rocher. Et nous savons que Christ, c'est à la fois notre berger et notre rocher. La pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue ensuite la principale de l'angle. Amen. Et quelle chose excellente de savoir qu'aujourd'hui, Jésus règne sur le monde. Vous savez, avec tous les bouleversements de toutes sortes qu'on peut y voir, avec la montée de périls et même d'iniquités de tout genre, avec les nouvelles alarmantes qui nous peuvent nous parvenir continuellement de partout. Quel réconfort de savoir que Christ est puissant pour garder les siens en toutes choses. Amen. Hein ? Vous vous souvenez de cette phrase surprenante, remarquable, et dans Genèse 46, au verset 34, il est marqué « Tous les bergers sont en abomination aux Égyptiens. » Et pourtant, chose étrange, c'est en Égypte que ces bergers trouvèrent refuge. Hein, on voit cela. Et de même, tout chrétien fidèle est en abomination pour l'esprit du monde. Et c'est pourtant dans ce monde que Dieu le garde, que Dieu le préserve pour qu'il puisse accomplir l'œuvre qu'il lui a donnée à faire. Et Christ fait concourir ainsi toutes choses pour le bien de ceux qu'il aime. Amen. Et puis voici notre quatrième exemple, c'est Moïse. Moïse, le berger d'un troupeau séparé, représentant Christ, le berger d'un peuple séparé. Ça, c'est notre quatrième chose. Voilà, quand Moïse, quand il gardait les brebis, rappelez-vous, il les gardait au désert, loin de tous les autres troupeaux. Et quand il devint le conducteur du peuple d'Israël, son devoir n'était pas de les préserver en Égypte, mais de les conduire en dehors de l'Égypte. Rappelons-nous cela. Et nous voyons que Moïse, déjà, a refusé d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Et ainsi aussi, Jésus a dit à Satan de partir en arrière, parce que comme Moïse, il aurait pu devenir roi. Mais puisque l'ennemi lui disait, « Je te donnerai toutes ces choses, pourvu que tu te prosternes devant moi et que tu m'adores. » Mais il refusa catégoriquement et renvoya l'adversaire. Et puis Moïse commença sa mission en allant voir Pharaon et en lui disant « Ainsi parle le Seigneur, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. » Et Jésus a commencé son ministère en proclamant pour les hommes la séparation de leur état de péché naturel pour le suivre là où il va. Et puis voyez aussi les prodiges qui ont été opérés à main forte et à bras étendus pour arriver à réaliser cet objectif par la parole de Dieu dans la bouche de Moïse. Et ceci pour qu'il ne reste pas un ongle dans le pays d'Égypte, qu'il ne reste pas un ongle en arrière. Et il leur a fallut même quitter ce pays de Gozen où ils avaient vécu depuis des générations, parce que Dieu ne voulait pas qu'ils le servent dans ce pays d'Égypte qui était rempli d'idoles. Hein, donc, et combien le Seigneur a fait des miracles et des prodiges donc, pour se faire un peuple pour lui, à part, sanctifié, zélé pour de bonnes œuvres. Amen. Amen. Et puis, nous pourrions passer bien du temps à parler de la Pâque et des parallèles extraordinaires qu'il y a entre Christ et Moïse à ce moment-là. Mais rappelons-nous notre grand point principal pour aujourd'hui, c'est justement ce grand exode de Moïse. Et donc, à la tête des tribus, le voilà qui arrive à Sukkot. Et là, ils établissent leur campement. Et quand ils s'avancent vers Pi-Hahiroth, voici la mer Rouge qui est devant eux. Rappelons-nous. Et alors, avec ce bâton de Moïse étendu au-dessus d'eux, ben, ils ont traversé cette mer Rouge à pied sec et ils sont entrés complètement, tous, dans ce désert de la séparation. Et de la même façon, tout héritier du ciel est appelé hors de l'Égypte de ce monde. Il est conduit au travers de la mer Rouge du sang de Christ, baptisé en Jésus et amené dans une position de séparation dans le désert. Et nous voyons comment Moïse a été pour eux un berger dans le désert. Il les a conduits dans toute leur pérégrination. Lorsqu'ils avaient besoin de nourriture, eh bien sa prière faisait tomber la manne à l'occasion des cailles. Quand ils avaient besoin de boire, c'était sa voix qui faisait jaillir l'eau du rocher ou sa verge qui frappait. Et voilà que le roc le plus dur s'ouvrait, se répandait en torrent. Quand il y a eu des Amalécites à combattre, bien sûr, il a fallu l'épée aiguisée de Josué, mais encore plus, les bras élevés de Moïse. Nous voyons cela. Et parfois, ils ont été châtiés par lui. Hein, rappelez-vous, quand il a réduit leur veau d'or qu'ils avaient fait, qu'il l'a réduit en poudre, qu'il a mis cette poudre dans l'eau, qu'il leur a fait boire cela. Et c'est aussi de lui qu'ils dépendaient pour leur réconfort. Hein, parce que sa parole, eh bien, elle était là, c'était la parole qui venait du Seigneur, elle était là comme la rosée qui venait sur l'herbe. Moïse, comme berger, a dû porter ce peuple dans son sein. Hein, des fois, il trouvait parfois que c'était un fardeau bien pesant. Et combien, en chacun de ces points, sans exception, nous voyons qu'il est une image parfaite et complète de Christ et de son œuvre pour nous. Amen. Amen. Enfin, un dernier exemple dont nous voulons parler pour aujourd'hui, c'est celui de David. David, image de Christ comme roi au milieu de son Église. David, comme Jésus-Christ, commence sa vie au milieu des épreuves. Il était berger aussi, lui, rappelez-vous. Il a été oint, et dès qu'il a été oint, eh bien, il a commencé à souffrir. Le roi du monde, c'était Saül, à ce moment-là, l'a reconnu, mais il l'a reconnu pour le détruire. Rappelez-vous comment Saül a fixé ses yeux sur lui, comment il a lancé son javelot contre lui, comment il l'a chassé comme une perdrix sur les montagnes pendant des années, et il n'a pas eu de repos jusqu'à ce que lui-même meure, jusqu'à ce que lui-même Saül soit tué. Et le pauvre David est une image de Jésus-Christ dans les jours de sa chair, chassé par le prince de ce monde qui aurait bien voulu le détruire, qui aurait bien voulu le faire tomber, qui aurait bien voulu éteindre la lumière de l'Évangile. Et puis enfin, David, nous le voyons, David monte sur le trône. Et il est établi dans la tranquillité, au moins pour tout un temps, comme roi sur Israël et sur Juda. Et ceci nous parle évidemment à propos de Christ. Ça nous parle de l'autorité, de la gloire dans laquelle Christ est établi. Ça nous parle de l'éternité de son règne. Ça nous rappelle que le berger règne et qu'il est en même temps le roi de son Église. Et bientôt, ce règne va être clairement manifesté sur toute chose. Et combien nous pouvons le louer et le glorifier pour cela. Amen. Alors donc, le temps nous manque pour aborder aujourd'hui les autres points. Nous remettons à plus tard, Dieu voulant, la semaine prochaine. Mais souvenons-nous, un berger assassiné comme Abel, dont le sang a une voix puissante, plus qu'Abel, mais pour la grâce, amen. Un berger en travail et en peine, comme Jacob. Donc, un berger, voilà, pour se gagner cette épouse et l'emmener loin du monde. Et ça nous parle aussi de ce travail du Seigneur pour les âmes et pour la séparation, la sanctification. Un berger vendu, un berger traité injustement, un berger qui est en bénédiction à tous. Et voilà l'appel à la repentance pour chacun qui n'ont pas encore eu cette occasion-là. Et puis un berger qui protège les bergers aussi, les bergers dans ce monde où il y a malheureusement de l'opposition. Un berger qui a fait un choix, donc il a rejeté les richesses de ce monde. Et là aussi, nous sommes appelés à faire ce choix et à nous séparer pour lui. Un berger qui s'occupe parfaitement des siens, et ça, c'est notre grand réconfort. Enfin, un berger sur le trône et dans la gloire. Et le voici avec des occasions de louer et de l'adorer. Amen. Amen. Te remercions, Seigneur. Et combien, Seigneur, nous sommes heureux et réconfortés de ce que tu es pour nous, le bon berger, le grand berger, le grand pasteur des brebis. Merci, Seigneur. Et lorsque le souverain berger paraîtra, alors il donnera à chacun ce qui lui revient, en particulier la couronne incorruptible de la gloire. Merci Seigneur, alléluia. Et merci parce qu'en ce jour encore, eh bien, il faut encore nous approcher de toi, te présenter les besoins, les personnes et les situations que nous avons énumérées, que nous avons citées, Seigneur, et nous attendre à toi pour que tu interviennes encore. Oui, nos yeux sont sur toi, les yeux de nos cœurs sont sur toi, nous te bénissons. Amen, alléluia, amen. Amen, Jésus. Amen, alléluia. Donc, quelques annonces. La prédication en ligne, je vous le rappelle, c'est toujours sur le site pour le vendredi soir, sur le site de l'église, vendredi soir à 20h15. L'évangélisation dans les villages est prévue samedi. Rendez-vous ici à 14h30, donc toujours pour des invitations dans les boîtes aux lettres. Le culte dimanche à 8h30 ou à 10h45, suivant ce qui vous convient le mieux. Mais inscrivez-vous sans tarder sur le site de l'église ou par téléphone. Et je vous rappelle que le programme des activités d'été, des missions, est affiché au fond de la salle. Voilà. Amen. Le Seigneur vous soutienne et vous fortifie.